VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Il est 13h en temps universel. Bonsoir. Bienvenue au Burundi. Pierre Claver Mbonimpa, le défenseur des droits humains, grièvement blessé le 3 août lors d'une tentative d'assassinat, est finalement parti dimanche soir pour la Belgique où il va recevoir des soins médicaux après la levée de l'interdiction de quitter son pays qui l'affectait depuis l'année dernière. Et puis les autorités burundaises annoncent l'arrestation de plusieurs exécutants de l'assassinat au début du mois du général Adolphe Nshimirambara, un responsable de la sécurité du pays. Pour l'analyse de ces nouveaux développements, Timothée Donangmaï a joint le professeur Fabien Sichayo de l'Université de Montréal au Canada.
J'espère que ce n'est pas pour amuser la galerie qu'on a fait ça. J'espère qu'ils vont rapidement identifier les cerveaux de l'assassinat et qu'ils vont les juger et en toute transparence. Parce qu'il en va de la crédibilité de nos institutions. Si jamais c'est pour amuser la galerie, ça va encore ridiculiser les institutions de la République. Et ce ne sera pas bon pour les dirigeants au pouvoir, ni pour nous d'ailleurs. Parce que ça veut dire qu'il y a des innocents qui vont souffrir et qu'au bout du compte, cela ne va pas nous avancer en quoi que ce soit.
Sur un autre plan, le militant des droits de l'homme Pierre Claver Mbonimpa s'est envolé dimanche soir pour la Belgique où il va être soigné. Alors comment interpréter son départ?
C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que il y a un peu d'humanité dans ce pays, mais il faut pas oublier que c'est une conséquence d'une maltraitance et c'est une conséquence d'une tentative d'assassinat. Mais cela veut dire aussi que la pression de la communauté internationale peut jouer dans le sens de l'humanisation de nos institutions. J'espère qu'il va s'en remettre et j'espère qu'il va retourner à Bujumbura parce que la bataille qu'il mène a encore besoin de soldats.
Le professeur Fabien Sichayo de l'Université de Montréal au Canada. Et ce lundi, dans la capitale Bujumbura, des coups de feu interminables ont été entendus par les habitants dans différents quartiers. On ne connaît pas le bilan, mais des véhicules ont été brûlés selon le correspondant de VOA Afrique sur place. Cette alarme automatique et lourde interviennent 7 jours après l'assassinat à la roquette de Adolphe Nshimirambara, ancien chef des services secrets. En République démocratique du Congo, retour progressif à la normale à Bukavu, le chef-lieu de la province du Sud Kivu, après le séisme de la semaine dernière. Le point donc avec notre correspondant sur place, Ernest Mouero.
La ville de Bukavu reprend peu à peu ses couleurs après la vive émotion et inquiétude qui a suivi le tremblement de terre du 7 août dernier. Les activités socio-économiques se déroulent à la normale, mais une soixantaine de maisons datant de l'époque coloniale en commune de Kadutu et de Bagira affichent des murs lézardés. Amos Bissimoa, un habitant de Bukavu, déplore l'absence de prévoyance de la part du gouvernement.
Sous d'autres siècles, quand il y a de telles situations, le gouvernement en place prévient les habitants au moins de 48 heures avant. Mais chez nous, vous voyez que nous avons été surpris en plein sommeil. Beaucoup sont dans une situation compliquée, ils n'ont pas d'abri.
Selon les gouvernements provinciaux du Sud Kivu, au moins 3 personnes ont trouvé la mort en territoire des Kabare et Kalehe, où l'on enregistre une soixantaine de blessés, mais seulement 3 grièvement. Près d'une centaine de maisons et édifices divers sont à terre. Des familles restent inconsolables. Certains tentent tant bien que mal de se reconstruire en chez soi à titre provisoire. Robert Ndjangala, coordonnateur du mouvement des jeunes Sagesek Force Vive, plaide pour l'assistance de ces sinistrés.
Le gouvernement devait en toute urgence les assister, voir comment les construire des nouvelles maisons, voir les intempéries et autres. Et l'État doit mettre en place un plan qui vise à urbaniser la ville en tenant compte le mouvement sismique.
Les ministres provinciaux en charge des affaires humanitaires au Sud, qui voulait le docteur Mwanza Nangunia, déclare que le gouvernement suit de très près ces cas de catastrophes naturelles, mais il ne faut pas confondre son rôle avec celui des services d'assurance.
Le gouvernement est mobilisé jusqu'au sommet de l'État. Tous les blessés ont été prise en charge. Nous avons recommandé les gens de ne pas habiter dans des maisons qui sont porteuses de profondes fissures. Et aussi, une chose que nous devons dire, l'État n'est pas un assureur. Pas question de dire, non, j'ai perdu ma maison, il faut que l'État me construise une maison. Mais on va tout simplement assister la population à se relever.
Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Mali, vague de condamnation après les violences de la semaine dernière où l'armée malienne a perdu 18 soldats et la population civile aussi a payé un lourd tribut. À preuve, les 10 civils tués par des hommes armés ce dimanche à Gaberi, un village du cercle de Gourma, Rarous, dans la région de Tombouctou. Au moins un assaillant aurait également péri. Cette attaque faisait suite à la prise d'otages à Sévaré dans la région de Mopti vendredi qui s'est soldée par un total de 13 morts samedi, 4 militaires, 4 assaillants et 5 employés de l'ONU. Plus de détails avec sur ces réactions à ces violences avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Une semaine noire pour les soldats maliens. Seule l'attaque de Baguineda du samedi 8 août 2015 n'a pas fait de victimes ni de blessés. Les organisations de la société civile malienne condamnent toutes ces attaques.
La plateforme des chefs traditionnels du coutumier Touareg du Mali a appris avec indignation et stupéfaction l'infiltration terroriste venue à Sévaré occasionnant la mort des innocents.
La plateforme des mouvements républicains d'Alger d'Orz condamne fermement les agressions, les prises d'otages et les assassinats lâches et barbares contre les paisibles populations du Mali, les soldats de la République, les étrangers vivant ou de passage au Mali.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président guinéen Alpha Condé a déclaré récemment à Niamey qu'il est prêt à engager la Guinée dans la lutte contre les islamistes nigérians de Boko Haram dès que le Niger le lui demandera. Mais à Conakry, cette initiative ne fait pas l'unanimité, nous dit notre correspondant sur place, Zakaria Kamara.
Boko Haram, une menace pour la sous-région, peut-on entendre dans les débats entre citoyens à Conakry? Mais à la question de la participation des troupes guinéennes contre la secte islamique, les réponses s'écartent l'une de l'autre.
C'est une question d'anticipation. Donc c'est une bonne chose d'en parler et puis de prendre aussi des mesures. Il ne s'agit pas d'en parler seulement, il faut prendre des mesures de sécurité.
C'est intéressant qu'ils puissent prendre position, mais pour moi c'est une erreur de communication. Boko Haram, c'est vrai, c'est une menace sous-régionale. Mais il faut prendre aussi le problème sous un aspect géopolitique. Je pense que nous avons beaucoup plus de problèmes internes à régler que de se soucier de certains problèmes qui sont un tout petit peu loin de nous.
Conakry, Zakaria Kamara pour La Voix de l'Amérique.
En Égypte, 4 policiers ont été blessés, dont 2 grièvement dans l'explosion d'une bombe près d'un tribunal au Caire. Ont annoncé des responsables, un attentat revendiqué aussitôt par l'un des principaux groupes djihadistes du pays, Ajnad Misser. Ce groupe djihadiste particulièrement actif dans la capitale égyptienne a revendiqué plusieurs attaques contre la police, dont certaines meurtrières. Les djihadistes disent agir en représailles à la sanglante répression qui s'est abattue sur les partisans de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée en juillet 2013. Et la justice égyptienne a reporté au 27 septembre son verdict contre Mohamed al-Zouairi, le frère du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zouairi. Le chef du groupe Al-Qaïda avait été arrêté en août 2013 en pleine campagne de répression visant l'opposition islamiste, lancée après l'éviction un mois plus tôt par l'armée du président Mohamed Morsi. Et comme 64 co-accusés, il est jugé pour la création d'un groupe terroriste liés à Al-Qaïda, ayant préparé des attaques contre des installations gouvernementales, les forces de sécurité et la communauté chrétienne. 10 personnes ont été condamnées à mort dans cette affaire.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, un blessé dans un état grave, c'est le bilan d'un échange de tirs entre la police et un jeune homme armé à Ferguson dans l'état du Missouri en marge des manifestations pacifiques hier pour commémorer le premier anniversaire de la mort de Michael Brown, l'adolescent noir non armé tué par un policier blanc l'année dernière dans cette ville de la banlieue de Saint-Louis. Selon le chef de la police de Saint-Louis, la personne blessée par plusieurs policiers, un certain Tyrone Harris Jr., aurait tiré sur une voiture banalisée de la police. C'est un jeune homme de 18 ans qui était très bon ami de Michael Brown. Il y a eu des manifestations de commémoration de la mort de Brown, non seulement à Ferguson, mais aussi à New York. La Turquie a été secouée ce lundi par une série d'attaques, dont 2 à Istanbul visant le consulat des États-Unis et un poste de police, alors que le pouvoir turc intensifie sa campagne contre les rebelles kurdes accusés d'être responsables d'un attentat dans le sud. Un groupe d'extrême gauche, le DHKPC, Parti Front Révolutionnaire de Libération du Peuple, a revendiqué l'attentat sur son site web. 10 personnes ont été blessées, dont 3 policiers, selon un communiqué du bureau du gouverneur. Le président afghan Ashraf Ghani a accusé aujourd'hui son voisin pakistanais d'envoyer un message belliqueux après la série d'attentats qui ont fait au moins 656 morts à Kaboul ces derniers jours. Monsieur Ghani, qui avait entamé un rapprochement avec Islamabad pour tenter de mettre fin au conflit avec les rebelles talibans, a également assuré lors d'une conférence de presse que les attaques de Kaboul prouvaient que le Pakistan abritait toujours des camps d'entraînement, de kamikazes et des fabriques de bombes. Jean-Roger Bion, merci de nous avoir suivis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.